que je voudrais vous parler de matière, là, dans son sens le plus trivial qui soit, parce qu'on est dans un bocage normand, une région d'élevage laitier. Je voudrais vous parler de la sociologue Maria Mies, M-I-E-S, qui est une écoféministe allemande, née en 1930, en partant de ses mémoires intellectuelles qui s'appellent très significativement « The Village and the World ». Pour préciser, Maria Mies est connue en France pour avoir co-signé un ouvrage avec Vandana Shiva. Elle est fille de paysan d'une fratrie de 12 enfants. Elle a grandi dans une ferme de Rhénanie, relativement autonome en légumes, fruits, farines, œufs, poules, etc. La particularité de cet ouvrage autobiographique, c'est de proposer un récit qui symétrise les savoirs qu'elle a acquis en tant que fille de paysan, mais aussi en tant que fille ayant eu accès à des savoirs scolaires. Et ayant pu faire donc le premier doctorat en langue allemande en 1963 sur la condition des femmes indiennes contemporaines. Elle a découvert le féminisme en Inde. Elle a participé au mouvement des femmes en Allemagne. Elle est écoféministe et intermondialiste. Donc je reprends des éléments absolument triviaux qui figurent assez rarement dans une autobiographie intellectuelle. Maria Mies raconte que sa mère se réjouit que les tables soient attenantes de la pièce à vivre. Elle peut donc entendre les vaches quand elles mettent bas, et la mère de Maria Mies n'hésite pas à passer des nuits entières dans les tables durant le vélage. Maria Mies raconte que sa mère se réjouit qu'il soit possible de traverser les tables pour amener les 11 enfants aux toilettes extérieures, ce qui permettait à la fois d'être au chaud le temps de la traversée et de jeter un coup d'œil sur les vaches. Maria Mies raconte aussi que le moment de la traite est le plus sûr moment pour les enfants d'avoir un temps privilégié avec leur mère, puisque c'est un moment où la fermière est relativement immobile et il est possible de se mettre dans les jupons. Donc, je ne sais pas si on assiste là à une scène de production, reproduction, travail. Voilà, mais on voit déjà une assez grande complexité dans tout ce que je viens de vous raconter. Je voudrais extrapoler conceptuellement et en me plongeant dans ces matières vitales, locales, triviales. Je parle davantage en mon nom dans la suite de la scène que celui de Maria Mies, mais je suis son programme sociologique d'adopter une perspective de subsistance. Donc je reviens sur cette scène. Il y a une pièce à vivre, une étable contiguë. La scène de traite est à minima triangulaire, il y a un enfant, un animal, un adulte, mais on pourrait le mettre au pluriel, évidemment. Pris dans des relations d'attention réciproque, la fermière maîtrise l'art de la traite lui permettant de tirer du lait en ayant dans les bras un enfant. De son côté, la vache ne fait pas de ruade permettant que l'enfant trouve sa place du côté de ce grand mammifère. Quant à la jeune Maria, Mies, elle fait en sorte de ne pas s'agiter pour que sa mère fermière puisse traire la vache et avoir l'assurance que dure ce moment d'intimité partagée. Donc cette relation triangulaire, je continue, s'augmente de relations nouvelles avec la traversée de l'étable pour d'autres fonctions. Les êtres humains ont cette caractéristique que les petits doivent être assez longuement accompagnés par des plus expérimentés pour assouvir un grand nombre de besoins physiologiques. Donc Maria Mies saisit précocement l'injustice de l'assignation de sa mère et des filles de la famille aux tâches d'aller, par exemple, emmener les enfants jusqu'aux toilettes, tout en essayant de saisir pourquoi sa mère ne s'en plaint pas. Si vous vous rappelez bien, le trajet de la pièce à vivre par l'étable a ceci de particulier qu'elle permet de garder un œil sur ce qui se passe dans l'étable et de bénéficier de la chaleur animale avant de s'engouffrer au dehors. Il y a donc dans l'idée que ces tâches d'accompagnement d'activités physiologiques obligent donc à traverser des mondes vivants avec des intersections assez fines à mettre en évidence. Avant que ne s'installe à une date très récente l'évidence des toilettes à eau, il allait de soi que l'eau potable n'était pas ce qui devait chasser les matières. Donc le temps physiologique de besoin ne se mélange pas avec la ressource en eau dans les années 1930 et 40, qui à cette époque ne vient pas d'un tuyau encastré qui a été entièrement chloré après avoir été retraité dans des stations d'épuration. Vous allez me dire quel est le rapport avec le féminisme, mais je vais y arriver. Il faut pomper l'eau qui ne se gaspille pas, il faut la répartir entre les bêtes, les plantes, les humains. L'entretien des ruisseaux, des rivières fait partie de cette distribution de la ressource précieuse en eau qui ne peut pas être une initiative isolée. Si la communauté villageoise n'entretient pas les bordures, les haies, les zones humides et ne prévoit pas des temps de débat collectif sur la répartition périodique de ces tâches, c'est tout le circuit de l'eau qui se trouve compromis. Mais s'ajoute encore une strate. Comme l'eau ne coule pas de source, il faut aller la chercher physiquement. C'est donc s'enquérir d'où vient l'eau, comprendre qu'elle surgit du dessous, du plancher des vaches, qu'elle parcourt d'autres champs. Il faut imaginer, envisager, parcourir, aller d'amont en aval. C'est aussi scruter l'été, le printemps, le ciel, dans l'attente de la pluie, en priant dans certaines familles les saints adéquats, en déchiffrant le bruissement spécifique des oiseaux, des chevaux qui sentent l'humidité, pour savoir qu'en faire le foin pour les vaches qui nourrissent un village, principalement composé d'éleveurs, mais aussi d'artisans et de commerçants. En bref, de la cuisine, de la pièce à vivre, à l'étable, de l'étable au lieu d'aisance jusqu'à la rivière, mais qui peut nous emmener jusqu'à l'embouchure de la mer, ne Nous n'avons parcouru que quelques mètres, et pourtant le monde de la maisonnée s'est peuplé de relations. Entre les générations, entre les sexes, du monde des animaux au monde des champs, du monde souterrain de la géologie au monde aquatique, du monde céleste au monde des villageois qui s'organisent et qui cumulent toute une pluriactivité de paysans, artisans, petits commerçants, à des degrés divers qui doivent s'entendre. Alors cette scène liminaire qui peut vous paraître vraiment basique, pose pour moi les jalons d'une réflexion écoféministe matérialiste qui se donne pour projet de suivre la circulation des matières d'amont en aval. Si je suis partie volontairement de ce qui peut sembler le plus bas, le plus indigne, des pies gorgées de lait, des enfants qui vont à la selle, si je suis partie d'activités qui peuvent sembler les moins enviables à l'heure des machines et des réseaux d'eau, d'électricité dans nos murs qui nous épargnent la pénibilité d'aller chercher de l'eau, c'est parce que je voulais être bien sûre que dans notre réflexion commune sur le commun ne soit pas oubliée cette masse incompressible de matières vitales sans lesquelles et d'activités vitales, de pratiques vitales, sans lesquelles aucune vie n'est possible. Si je ne mange pas, si je ne bois pas, si je ne dors pas dans un abri, si je ne me vêtis pas, si je ne laisse pas aux matières vivantes de quoi se régénérer pour se renouveler, il n'y a pas de pluralité de monde articulé. La pluralité des mondes n'est pas donnée, que ce soit dans les sociétés nomades ou sédentaires, il n'y a pas d'Éden qui permettrait que la subsistance soit apportée demain, sauf dans des textes utopiques ou religieux. Il n'y a rien de spontané dans la commensalité, l'architecture, il était bien question d'architecture, dans la contiguïté de l'étable et de la pièce à vivre, dans le tissage, dans l'ensemencement, et il faut bien s'organiser collectivement pour les modalités de cette fabrique. Donc on est au cœur de ce qui fait société. Ce qui permet d'opérer du coup un déplacement dans le questionnement. Comment voulons-nous boire, manger, dormir, habiter, être vêtu, être soigné, renouveler les matières, de sorte que le spectre de la pluralité des mondes possibles reste ouvert et non drastiquement réduit? Comment faire pour que ces activités vitales ne soient ni appropriées, ni parcellisées en autant de tâches réservées à des populations subalternisées, tandis que d'autres auraient le loisir de s'en abstraire? Ce questionnement est une préoccupation typiquement féministe. Il n'y a pas de petites et de grandes arènes, de grandes et de basses tâches. Le privé est politique. C'est aussi une préoccupation typiquement écologiste. La possibilité d'un renouvellement des matières qui permette l'abondance commune est une question politique. L'écoféminisme, né dans les années 1970-1990, ajoute d'autres strates à ce croisement entre écologie et féminisme. Le mouvement qui conduit un certain nombre d'êtres humains à exploiter les hommes, pour ne pas les nommer, à exploiter la terre au-delà de ses capacités de régénération et de redistribution au plus grand nombre, n'est pas séparable du mouvement qui conduit à la surexploitation des femmes, mais de bien d'autres entités et d'êtres encore, en tant qu'êtres reproductifs de la matière humaine et de la charge de la reproduction de la vie. Je ne vais pas détailler ici toutes les déclinaisons de cette proposition minimale à tous les écoféminismes. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des écoféminismes. Donc je vais me concentrer sur une seule version, qui est elle-même déclinée en plusieurs, mais que j'ai qualifiée de féminisme de la subsistance, à la suite d'un groupe d'écoféministes allemandes, qui, toutes trois universitaires et activistes, Maria Miss, Veronika Bennold-Thompson, Claudia von Werloff, qui défendent une perspective du même nom, une perspective de subsistance, à partir d'enquêtes qu'elles vont mener en Inde, au Mexique, au Venezuela, en Allemagne, au Bangladesh. Elles vont agréger à leur mouvement la politiste italo-états-unienne Silvia Federici, qui est la plus traduite en France. Elles vont aussi se mettre en lien avec la philosophe des sciences et altermondialiste Vandana Shiva. Ces féministes sont en lien étroit avec Ivan Illich et Wallerstein. Elles ignorent en revanche notre écoféministe française historique, Françoise Daubonne, qui est pourtant sur une ligne très semblable et qui, elle, va dialoguer avec Henri Lefebvre notamment. Elles ont en commun de se revendiquer de Marx, Engels, de Rosa Luxembourg, tout en mettant en avant ce qui a été rappelé tout à l'heure, la puissance d'organisation du mouvement féministe déconcentré, qui échappe à une organisation pyramidale concentrique pour se diffracter en petits groupes, et donc il y a un ancrage en fait anarchiste, de mode d'organisation anarchiste qui traverse cet écoféminisme de subsistance. J'y ai pour ma part agrégé des anthropologues, des historiennes, des économistes du Nord et du Sud des années 70 et 90. Et donc, pour résumer, c'est le même effroi. Les sociétés de subsistance, que ce soit des sociétés paysannes ou des sociétés de chasseuses, chasseurs, cueilleuses, cailleurs, sont peu à peu remplacées sur toute la planète par des sociétés de consommation-production de masse encouragé à s'urbaniser massivement. C'est un changement anthropologique majeur et donc se pose dans ce féminisme-là la promesse, la question, est-ce que la promesse de devenir salariée, ouvrière ou cadre, totalement dépendant du complexe nucléaro-pharmatico-militaro-industriel, ce sont leurs termes et les miens, n'est pas comme considéré comme un progrès pour les femmes, pas plus que pour les hommes. Autant dire que c'est un féminisme radical qui va à contre-courant d'une égalité pensée sur le modèle de l'alignement des carrières masculines. C'est à partir donc de l'accès à la subsistance et à la possibilité de disposer d'une autonomie en matière d'organisation, mais aussi de transformation de ces moyens d'existence de base, mais aussi du processus de décision sur l'organisation de ces moyens d'existence, qu'est pensée l'égalité et l'organisation politique. Pour le dire autrement, l'autonomie en tant que sujet n'est pas séparée, mais aussi en tant que sujet politique, pour le coup, comme chose politique, n'est pas séparée des possibilités matérielles de fabrique directe de la subsistance commune. Et je tiens au terme de fabrique directe. On va revenir sur la fabrique indirecte. Du coup, essayer de procéder en trois temps, je ne sais pas, comme tout le monde, si j'arriverai au bout, mais je vais y aller en cavalant. Voilà. Le féminisme de la subsistance, d'abord, pose des contre-récits historiques, et donc je vais vous en donner quelques-uns. Ensuite, c'est une totale reconceptualisation de la notion de travail domestique, de travail, et aussi de capitalisme. Donc je vais vous essayer de développer ça dans un second temps. Et un troisième temps, qu'est-ce qu'on fait avec ça sur le plan de l'inventivité, de l'ouverture des mondes possibles politiquement, quand on en arrive à la conclusion d'une relocalisation extrême de l'économie, que deviennent ces fameux mondes qui sont traversés et comment ne pas rester dans une vision traversante des mondes et non repliée. Donc la première strate de l'argumentation qui est assez commune avec d'autres auteurs, c'est que la création d'une citoyenneté anonyme où tout le monde est également recommandable a priori et où personne ne peut s'approprier des postes au nom de l'idéal méritocratique va de pair avec une conception complètement déterritorialisée des métiers et des fonctions humaines qui repose donc sur trois principes. L'interconnaissance de la clientèle, de la patientèle n'est pas indispensable pour régler un problème qui les concerne. Les professionnels ont pour vertu d'être éminemment substituables et l'expertise professionnelle transposable à tout lieu. Je ne vais pas développer tout ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui conduit donc à faire que l'essor du capitalisme est fondé sur une modification profonde du système des professions avec des corps de diplômés en capacité de proposer des diagnostics et des solutions génériques. Et donc, elles vont essayer de partir de là avec d'autres listes pour comprendre comment on en est arrivé là et quels sont les effets. Et donc, je ne vais pas revenir jusqu'au paléolithique, même si c'est une histoire qu'elles font aussi, mais Engels l'a fait aussi, donc elle se situe dans une grande tradition. Du point de vue, je voudrais en arriver plutôt au rôle qu'ont joué les femmes dans la création de ce nouveau système des professions qui est consubstantiel à l'essor du capitalisme, qui est fondé sur la possibilité d'agir en tout lieu et de s'abstraire de son milieu de vie, à la fois pour la moindre des activités humaines qui donc peut se retrouver éminemment délocalisable. Donc le remplacement des sociétés de subsistance par des sociétés de consommation-production ne s'est pas opéré par la simple magie de l'attraction pour le modèle industriel qu'on peut même parfois qualifier de confort. Donc comment les économies de subsistance se sont-elles très concrètement converties à la consommation dirigée, pour reprendre d'autres termes? Les rapports de genre jouent un rôle absolument structurant. Et donc, je ne vais pas résumer cette énorme fresque historique et je vais m'en tenir typiquement à la façon dont elles vont reconceptualiser la naissance du capitalisme pour arriver jusqu'au capitalisme de la naissance. Voilà, c'est un peu vaste, mais c'est tout le chemin qu'elles nous obligent à parcourir, elles aussi, tambour battant, parce qu'elles ne sont pas des milliers de chercheuses, ce sont des chercheuses amatrices aussi pour certaines, et donc elles n'ont pas des cohortes de thèses pour étayer tout leur point de vue, et donc elles sont dans une pratique aussi théoricienne pour défricher et nous essayer de changer de logiciel historique, en quelque sorte. Alors la première étape qu'elles identifient, c'est le remplacement des maisonnées prémodernes et paysannes qui sont donc variées en genre, en différentes générations, peuplées d'animaux, de saints, d'esprits, ben voilà, une sorte de monde extrêmement composé avec des familles par ailleurs extrêmement recomposées qui n'ont rien à voir avec les nôtres, tellement elles sont recomposées plus. Bref, va s'imposer la norme religieuse du couple devenue unité de référence. Et ça, Illich, mais aussi Silvia Federici, piste l'invention du couple et donc de son hétérosexualité par la même occasion, comme une unité assez maniable qui va pouvoir être enrôlée dans l'économie monétaire, à la différence de la maisonnée dont on voit qu'elle est assez extrêmement variable, mais par ailleurs plus difficilement manipulable, parce qu'on est face à des groupes humains beaucoup plus autonomes. Et donc ce que va montrer Silvia Federici, repartant de la sorcellerie, mais comme vous connaissez probablement ce texte, je ne vais pas trop développer, mais elle montre cette étonnante conjonction à la fois des bourgeois des villes, des seigneurs féodaux et de l'Église pour disloquer les sociétés villageoises articulées autour de maisonnées pour créer un régime de défiance à l'encontre des femmes, de sorte à démembrer des solidarités villageoises à un moment extrêmement tendu puisqu'il s'agit d'enrayer le rapport de force numérique qui s'est créé en faveur du paysan que la grande peste du XIVe siècle a permis. Il y a plus de terres que de bras pour les cultiver. Donc il va falloir, le pouvoir est potentiellement du côté des solidarités rurales et populaires. Donc la création d'une guerre des sexes, en quelque sorte, d'une criminalisation des savoirs vernaculaires, c'est démembrer les sociétés villageoises et donc permettre aussi, ce faisant, l'entrée du capitalisme. Je passe ensuite sur une deuxième étape, c'est que le capitalisme, c'est très, très massif, hein, j'y vais à la serpe, et ce qui est très intéressant chez ces écoféministes-là, c'est qu'elles font une histoire mondiale, c'est-à-dire qu'elles pistent d'emblée ces évolutions tout en montrant que de l'Italie à la France, tout ça ne s'est pas fait au même moment, mais c'est un mouvement de très grande amplitude qui s'est répandu. Elle montre dans un deuxième temps que le capitalisme en fait va créer créer de l'exode de rural, puisqu'il va falloir aspirer des personnes du côté des forces productives, et que ça va commencer par notamment les hommes, et que donc les maisonnées vont être désarticulées par une deuxième atteinte qui est leur féminisation en quelque sorte, c'est-à-dire que les hommes vont se retrouver à la ville en exode, enfin devenir des forces productives, tandis qu'elles vont se retrouver avec des vieillards, des enfants, et donc les espaces domestiques et la vie agricole être dans un moment assez périlleux, du travail à domicile à façon pour l'industrie, et donc va se créer ce moment transitoire extrêmement pénible où effectivement le travail des champs devient absolument intenable. La fée de l'électricité va venir au secours de cette paysanne qui n'aura évidemment de cesse de vouloir migrer à la ville pour quitter cette condition de maisonnée particulièrement désarticulée. La conversion, en fait, et c'est là que vont jouer un rôle, enfin, va jouer, les sciences ménagères vont jouer un rôle extrêmement important, c'est-à-dire qu'il va s'agir d'aspirer l'autonomie des maisonnées du côté de la consommation, production, et donc plus d'un siècle de sciences ménagères pour former les femmes à cette chose extrêmement abstraite consistant à sortir son porte-monnaie pour la moindre tâche de la vie quotidienne, c'est-à-dire de prendre un équivalent monétaire et passer pour l'alimentation, le ménage, la lessive, etc. Voilà. Donc les femmes vont être formées à cette nouvelle manière de vivre qui fait qu'il va falloir une médiation pour avoir de l'eau, l'électricité, des équipements ménagers, etc. Donc un autre stade de ce moment historique qui est variable dans chaque pays. Encore une fois, je ne vais pas revenir sur cette longue historicité longue. C'est que les femmes va s'inventer cette figure de femme au foyer totalement historiquement située. Ne sera donc vouée à faire de la transformation à la maison de produits consommés sur lesquels elle n'aura pas de possibilité de pistage des matières en amont comme en aval. Voilà, je sais pas si. Donc elle a, donc là, c'est une tâche particulièrement effectivement pénible, puisqu'il n'y a pas de prise sur cette matérialité-là, dont elles sont pourtant le rouage indispensable par la consommation. La troisième étape de ce processus de conversion, c'est que les sciences ménagères vont paraître, à un moment donné, trop soucieuses de la qualité des produits. Et donc, le capitalisme industriel passe dans une autre étape. Et il faut donc, on dit que c'est le féminisme qui a supprimé les sciences ménagères, mais le capitalisme y a aussi largement contribué. Parce qu'en fait, il faut surtout ne plus être soucieuse de la qualité des produits. Et il faut entraîner les femmes, non pas du côté de la veille du four qui marche ou du bon beurre, mais du côté du travail salarié lui-même. Et donc là, il y a un travail de conversion de l'ensemble des deux sexes, de l'ensemble des portes de la famille, du côté de la société du salariat, pour qu'on passe à une sorte de consommation intégrale et à diminuer le travail de transformation qui se passe à domicile. Ce qui fait qu'on se trouve face à quelque chose d'historiquement très singulier à l'échelle de l'humanité, c'est que du coup, le travail du care qui se situe aux soins des familles se trouve dissocié comme un travail d'affection, en fait, un travail émotionnel, justement, dissocié de la contrainte matérielle manuelle de la veille et de l'activité pratique de l'amont et de l'aval des matières. Voilà. Donc, ce qui, évidemment, pour des femmes du Sud, n'est pas possible. On est obligé de travailler dans les champs et on est dans la situation des années 1930 que décrivait Maria Miss, ce qui fait que ça a des grandes conséquences. Dans cette étape, ce qui est très intéressant de cette conceptualisation, c'est que ces féministes-là, dès les années 70, incluent immédiatement le processus de la colonisation. C'est-à-dire que ce qu'elles montrent, c'est que pour inventer cette fameuse femme au foyer, derrière son évier qui regarde les vaches passer, ce que les agriculteurs savent très bien, n'a jamais été possible. La colonisation joue un rôle absolument indispensable dans l'accumulation de capital, mais aussi pour la fameuse délocalisation des matières premières qui vont être extraites et transformées hors d'Europe à moindre coût, au prix de l'esclavage, hein, d'une population, dans un premier temps, puis ensuite au prix de paysannes et de paysans libres qui vont donc assurer un travail de subsistance pour les ouvriers qui seront délocalisés et qui pourront être payés d'autant plus à moindre coût qu'on sait très bien qu'une partie de leur salaire est assurée par les travaux des champs qui, lui, évidemment, n'est pas rémunéré. Donc on se retrouve en bout de chaîne, à l'autre bout du monde, avec des pratiques de subsistance maintenues dans les sociétés paysannes qui sont absolument indispensables, en fait, pour que le capitalisme fonctionne. On en revient toujours au même point, qui est qu'il faut bien qu'en bout de chaîne, quelqu'un, mais surtout quelqu'une, accomplisse ce travail de subsistance sans lequel le capitalisme n'a pas d'existence. S'il doit salarier l'intégralité des activités humaines, c'est à la banqueroute. Il en arrive à la banqueroute et ça explique notamment l'un des mouvements féministes qui est assez mal compris, qui s'appelle Wages for Housework, qui a demandé un salaire pour le travail domestique. C'était pour conduire le capitalisme à la faillite, non pas pour revendiquer le salariat pour cette tâche-là. C'était pour dire, mais imaginez qu'on les prenne à leur propre piège. Et donc, cette façon de connecter les petites mains du bout du monde qui sont avec la pioche, la faucille, aux petites mains ouvrières qui mettent les puces dans nos ordinateurs, jusqu'aux femmes et aux hommes qui bénéficient de ces intérieurs avec une domotique exceptionnelle qui leur permet vraiment de prendre soin de leurs enfants, il y a une véritable mise en histoire mondiale, mais décoloniale aussi, et féministe, de la responsabilité que l'on a de s'appuyer sur ce modèle-là pour penser l'émancipation. Alors j'en viens maintenant, sans compter, à la reconstruction, parce que je sais qu'il me reste peu de temps, qu'est-ce que ça implique en termes de reconceptualisation que d'avoir cette grande fresque qui est historique. Donc tout d'abord, ça pose un vrai problème de vocabulaire et ça a été évoqué plusieurs fois. Comment qualifier le travail, voilà, j'y viens, comment qualifier les tâches de subsistance, les pratiques de subsistance, et j'aime bien le mot société de subsistance. Et c'est très singulier qu'aujourd'hui on parle d'auto-subsistance, ce qui est un vrai souci, parce que pour moi ça réfère aussi à la notion d'automate, mais aussi de pour soi et par soi, alors qu'il me semble bien, dans la première scène que je vous ai décrite, qu'il n'existe pas de solipsisme de la fermière, d'insularité de l'activité, y compris même maternelle, qui pouvait se faire jour, et qu'on est donc, du coup, moi, en fait, j'ai fini par dire entre subsistance avec un tiret, pour être bien sûr qu'on ne individualise pas quelque chose qui est déjà éminemment collectif. Donc, ces pratiques d'entre-subsistance, comment les reconceptualiser à l'aune de la critique matérialiste, féministe, sur le travail de production-reproduction. Et donc là, il y aura un dialogue que Christine Delphi va entrer dans la controverse sans que Silvia Federici et les autres n'entrent avec elle dans la controverse, mais il y aura très clairement un désaccord important en termes de conceptualisation. Il n'est pas possible pour les féministes de la subsistance de mettre sur le même plan deux opérations économiques, plus que ça, deux opérations qui engagent l'intégralité de l'organisation de la vie politique sur le même plan, c'est-à-dire l'opération de production-consommation d'un côté et la question de la subsistance. Dans un cas, je vais employer les mot capitaliste. Le travail de consommation, donc avec les termes capitalistes, ne permet pas de dégager du surplus. Ce n'est pas, si, suffisamment pour en prêter à d'autres. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, par rapport à un élevage domestique de poules, de lapins, au fait de produire son grain d'orge ou de cultiver ses poireaux, on voit bien que le travail de consommation et de, c'est une activité extrêmement qui a un travail. Ce travail de consommation se résorbe dans ce qu'on pourrait appeler la consommation finale, qui fait qu'il n'y a pas possibilité de renouvellement de la matière à partir de ce travail-là, qui est donc, comme le terme l'indique, de la consommation finale. Et donc, on ne peut pas appliquer cette grille de lecture fondée vraiment sur un système de production-consommation à des travaux, à des modes de vie fondés sur la subsistance, pour lesquels le fait de conserver en permanence une part, à la fois, c'est-à-dire à la fois un espace-temps et des matières, on doit conserver un espace-temps-matière qui permettra le renouvellement de la matière. Et donc c'est évidemment une fracture, c'est un mode d'organisation du monde totalement différent. Et donc ce que vont dire ces écoféministes, c'est que le travail domestique en version industrielle, c'est donc un travail profondément fantôme. On est abstrait à la fois de la matière, de l'amont et de l'aval. On n'est pas reconnu en tant que travail. On se retrouve dans la tâche rude d'accommoder des produits prêts à l'emploi qui n'ont en plus pas été fabriqués pour être forcément bien employés. Et donc, il y a une séparation, au sens marxien aussi du terme, entre le travailleur et sa production. On n'a pas la maîtrise des outils de travail, ni la jouissance de la finité de son travail. Bref, donc du coup, l'apport du féminisme de la subsistance, c'est justement d'essayer de requalifier et de changer les termes même de qualification du travail domestique. Et donc le travail domestique, comme l'a très bien dit Fanny Gallo, est effectivement indispensable au développement du capitalisme, mais elles en vont jusqu'à créer le concept de housewifeisation, c'est-à-dire qu'elles ne font plus du salarié la figure principale du régime capitaliste, elles font justement de la femme au foyer contrainte au travail particulièrement dépeuplé, mais en même temps soumise à un dévouement extrêmement efficace, à une productivité effectivement assez puissante dans l'espace du foyer. C'est donc la femme au foyer qui se retrouve au cœur du régime capitaliste. Et donc, Et elle montre même qu'un de l'enjeu du capitalisme dans sa phase, de ses phases terminales, c'est de faire de tous les salariés des femmes au foyer. Et on l'a bien vu pendant le confinement. Nous avons été de magnifiques télétravailleurs et télétravailleuses au foyer. Et elle montre à quel point ce moment-là de perméabilité des sphères rend le travail salarié absolument efficace. Mais elle va encore plus loin dans la qualification du régime capitaliste et de ce type de patriarcat. Elle dit ça, c'est pas simplement une généralisation de la femme au foyer qui est visée, c'est aussi une tentative de captation du pouvoir d'engendrement lui-même. Et donc, elles prennent le terme de patriarcat au sens de on va mettre le père au cœur comme l'origine du monde, en quelque sorte. Et donc, il y a l'idée, comme je reviens au point de départ, d'une dépendance et une perte de confiance. En fait, on l'a organisée aussi par un système de professions qui va vous expliquer, en tant qu'ingénieur, accoucheur, que la matière ne peut pas se produire de manière autonome, sans ingénierie de grande amplitude, ni technique extrêmement de pointe, ni médecine. Et donc, il y a une sorte de mise en place, de conditionnement qui fait que la société entière va se mettre à faire confiance à des substituts marchands pour l'entreprise de régénération des matières. Et donc, Claudia von Werloff en conclut qu'après 5000 ans de tentatives, le patriarcat est en passe de parvenir au dernier stade du capitalisme, c'est-à-dire à réaliser son vœu de captation automate de la fécondité des corps de tous les vivants. Donc, elles en arrivent évidemment à la critique, elle s'intéresse à la naissance du capitalisme jusqu'au capitalisme de la naissance, qui est évidemment le marché le plus captif qui soit pour la vie terrestre. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est arrivé là ? Moi, j'étais assez terrassée, pour rien vous cacher. C'est pas quelque. Enfin, et donc, comment on rebondit ? Françoise Daubonne, qui est donc en appel à l'écoféminisme ou la mort. Hein, c'est un très beau titre. C'est l'écoféminisme ou la mort. Et elle dit à tout prendre, les bonnes femmes locales, triviales, ça pourrait être la classe politique révolutionnaire. Puisque les hommes ont été complètement happés par le salariat, la robot. Enfin, et elle dit cette phrase très belle, vaut mieux avoir rendez-vous avec des femmes qu'avec l'apocalypse. Donc elle dit, j'ai bien conscience que c'est très ringard de s'appuyer sur les femmes. Ça fait très essentialiste, ce qu'elle n'est absolument pas. Mais elle dit, il y a quand même eu 5000 ans de pouvoir patriarcal. Donc après tout, pourquoi ne pas faire confiance à ces fameuses bonnes femmes qu'on n'entend pas. Et donc, elle constate que ces bonnes femmes ayant été salariée plus tardivement, elle se retrouve encore en prise avec les matières, ces fameuses matières dont je vous ai parlé au tout début. C'est encore celles qui torchent les selles de nos enfants et qui se préoccupent de ce que cela va devenir. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre du contact avec la matérialité qui, debout, se transforme ici en or révolutionnaire. Voilà, comme quelque chose qui permet de ce contact assigné à la matière, aux matières les plus viles, qui peut en faire une classe absolument révolutionnaire. L'autre option que pose Maria Mies, par exemple, et les féministes de la subsistance allemande, c'est un concept que je trouve très beau qui s'appelle la sweat equity. L'égalité dans la sueur. C'est-à-dire qu'elles disent, franchement, le capitalisme n'a pas diminué. Enfin, je veux me dire, on parle beaucoup que ça diminue la pénibilité, les corps se portent mieux, etc. Mais elle pense quand même, elle trouve les corps bien surmenés, que le travail, la peine est quand même très vive. Et elle dit, tant qu'à vivre dans la peine de ce labeur que le capitalisme n'a pas résorbé, vers quoi donc tourner notre activité ? Et donc, il y a toujours l'idée fondamentale que la liberté humaine doit être ancrée dans la nécessité. Il n'y a pas de transcendance religieuse, politique, économique qui nous permettra d'échapper à la matérialité de la fabrique de la subsistance commune. Nous devons transformer la matière pour vivre. Qui va le faire en bout de chaîne ? Et donc l'option retenue par ces féministes anarchistes n'est donc pas de déléguer cette tâche à des populations subalternisées, mais d'en partager la charge, les joies aussi, pour parvenir à l'équité dans le labeur, dans la sueur, entre peuple, classe sociale, hommes et femmes. Elles font une analyse intersectionnelle avant l'heure, hein, pour vraiment réimaginer. En se disant, les gens continuent de travailler très durement dans les pays industrialisés, en dépit de la mécanisation. Il s'agit donc bien de reprendre en charge ce travail qui n'est pas résorbable. Je voudrais vous évoquer aussi le travail de géographe et économiste féministe Gibson Graham, australienne, qui elle propose une autre manière de mettre en commun cette charge. Et elle propose d'abord, elles ont une politique discursive. Alors elles sont pas dans cette logique matérialiste marxiste, elles sont plutôt butlerienne, voilà. Mais je trouve que ça converge. Et elle propose d'abord un exercice de description du monde. Elle trouve que nos descriptions du monde sont trop capitalocentriques. Typiquement, le terme de production-reproduction. Moi, j'en viens à ne plus parler de capitalisme, même si je l'ai fait. Pourquoi pas parler, dans ce cas-là, de société post-subsistance ? Je fais de la subsistance ma norme, et c'est le capitalisme ou l'industrie qui devient hors norme. Et donc il y a une vraiment et donc elle dit il y a ce travail de redescription qui est une véritable invitation à faire collectivement et pour rendre visible la face cachée de l'iceberg et surtout rendre compte de la diversité économique qui traverse donc le monde post-subsistance. Toutes les activités humaines sont traversées par la coexistence d'activités de subsistance qui demeurent, qui subsistent, d'activités péries post-subsistance. Bon, je vais quand même employer le mot capitaliste. Voilà, et donc elle propose véritablement de faire des inventaires et des communautés qui vont se créer à partir de l'inventaire de ces fameux espaces-temps outils que nous, pourrions soustraire à l'espace-temps capitaliste, les mettre en commun, de sorte à créer ce fameux surplus qui permettrait évidemment à tout le monde de ne pas prendre la charge du travail, puisque tout le monde n'est pas en mesure de prendre cette charge-là. Et donc ça, je trouve que c'était des propositions extrêmement singulières. Je voudrais peut-être finir, je sais que, voilà, 3 minutes, sur... Ah bon, sur le... Et voilà. Alors non, sur le problème, c'est que le point commun de toutes ces utopies ou propositions écoféministes ou féministes de la subsistance, c'est qu'elles sont sur des échelles biorégionales à maxima, pas tout à fait étatique, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et pour une relocalisation extrême de l'activité, mais dont vous avez vu que c'était pensé en termes de matière circulante, traversante, la transcorporealité de l'alimentation, par exemple, nous fait déjà un niveau microscopique traverser bien des mondes. Et donc, se pose quand même, et ça c'est une question que je leur pose et que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a relocalisé de façon extrême la matière ? Comment vivre avec des matières extrêmement ramifiées, qui ont tout un visage, à nouveau, dans un monde extrêmement d'interface, de connaissances. On connaît toutes les personnes qui sont derrière chaque matière et dont on sait que ça peut être très émancipateur de ne pas savoir l'être, la main incestueuse qui a fabriqué votre lit. Et donc l'exode urbain est absolument salutaire dans ce genre de conditions. Donc comment faire pour à la fois se remettre dans les conditions d'une circulation humaine qui empêche le repli ou l'impossibilité de quitter le monde des matières relocalisées, tout en ne perdant pas de vue que si on s'abstrait du monde relocalisé, on n'est plus en capacité d'assurer cette veille à la fois environnementale, humaine et de soins du monde, et on en devient trop abstrait. Donc c'est une tension qui est assez impossible. Et donc pour y répondre, mes terrains d'enquête ont été extrêmement, extrêmement importants. J'ai fait 10 ans d'enquête sur les alternatives écologiques et j'ai chaque fois pu constater dans tous les groupes que j'ai pu voir, soit Notre-Dame-des-Landes, aux groupes colibris que j'ai pu aller voir, cette même tension entre des nomades et des sédentaires. C'est-à-dire qu'il y a vraiment à la fois la possibilité de relocaliser de façon extrême son activité parce qu'il faut un nombre conséquent de personnes et de groupes qui ont l'ambition de vieillir avec des chaînes. C'est fondamental. Et de l'autre côté, d'autres qui n'auront pas il faut pouvoir imaginer une sortie de la valeur d'usage. La sortie de la valeur d'usage le plus rapidement possible et donc un nomadisme qui soit à tout moment, il faut pouvoir lever les voiles. Et donc c'est pour ça que je parle d'ancrage dans la matière monde et pas d'enracinement. Et donc cette sorte de fonctionnel, enfin comment dire, voilà, de systémie entre des nomades et des sédentaires, entre me semble extrêmement extrêmement important pour sortir de l'idée que la relocalisation nous userait ou nous réduirait et pour maintenir le principe de la traversée de la traversée des mondes. Je m'arrête là.